France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Sous la Troisième République, l'Assemblée nationale s'appelle Chambre des députés. Le lieu concentre derrière ses murs l'essentiel du pouvoir politique. Selon la confiance qu'il accorde ou qu'il retire au gouvernement, celui-ci retire ses travaux ou doit remettre sa démission. Cette instabilité est d'ailleurs l'une des causes de la chute de la République en 1940. Après-guerre, sous la Quatrième République, le Palais Bourbon se nomme Assemblée nationale. Son rôle reste sensiblement le même et, dans la pratique du pouvoir, il peut faire et défaire les gouvernements selon les rapports de force du moment. Là encore, cette instabilité tient un rôle majeur dans la succession de crises, et notamment les crises coloniales, qui précipitent la fin du régime en 1958. Au moment où cette émission est diffusée, février 1957, nous n'en sommes pas encore là, et la chambre basse du Parlement jouit encore d'un certain prestige. Ce qui explique le ton très déférent des journalistes qui interrogent deux personnalités majeures de la vie parlementaire. André Le Troquer, président de l'Assemblée de janvier 1956 à octobre 1958, et Édouard Herriot, ancien président de la Chambre et figure centrale de la Troisième République, qui est lui dans les tout derniers moments de sa vie. Deux personnalités de la vie de l'Assemblée pour un large rappel historique dont la figure centrale est bien le Palais Bourbon lui-même. Voici Petite Histoire du Palais Bourbon, première diffusion sur la chaîne parisienne le 16 février 1957.
Le monde comme il va. Petite histoire du Palais Bourbon, une émission de Jacques Capdeville. Au cours de cette émission, présentée par Simone Angèle, Claude Gaudelette et l'auteur, avec le concours de Georges Drouet, vous pourrez entendre une interview exclusive de M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale, et la voix du président Édouard Herriot. Réalisation Abder Isker.
Imaginez que nous sommes demain matin et que vous soyez non pas un de ces flâneurs des deux rives chers à Apollinaire, mais un flâneur d'une rive, celle de la rive gauche. C'est le matin donc, et quelques vers de Léon Polfarg nous reviennent en mémoire.
Quand l'aube apporte le vent neuf et qu'elle joue aux quatre coins avec nostalgie dans les villes, aux carrefours ornés de glace, qui attire de vieux regards subtils du fond des lointains graves.
Vous venez de franchir le pont de la Concorde, de jeter un regard attendri sur les flots millénaires de la Seine. Et devant vous, oui, là, juste devant vous, le Palais Bourbon, avec ses colonnades qui soutiennent le temple de la démocratie. Le Palais Bourbon avec son chapeau en accent circonflexe qui subitement vous donne envie d'y pénétrer pour en savoir tous les rites actuels et tous les mystères passés. Le Palais Bourbon. Le long des berges de la Seine, des arbres chauves attendent le printemps, et tout autour, du silence. Ici commence l'histoire du Palais Bourbon, l'histoire de l'hôtel de la présidence. Cette histoire, Simone et Claude la redécouvrent pour vous en feuilletant un simple livre.
Voyez comme il est facile de retarder l'horloge du temps. Le long de cette même rive gauche de la Seine s'étend alors un terrain vague, le Pré-au-Clair, la Grenouillère, où des gentilshommes veulent alors régler leurs querelles, l'épée à la main. Ce Pré-au-Clair avait bien mauvaise réputation. Un chroniqueur de l'époque disait de lui « Ce terrain semble voué par l'histoire aux disputes humaines ».
1720. Si nous en croyons Jean Marchand, correspondant de l'Institut, auteur d'un ouvrage sur l'histoire du Palais Bourbon, la duchesse Louise Françoise de Bourbon, fille de Louis XIV et de Madame de Montespan, veuve du duc de Bourbon, petit-fils du grand Condé, acquiert la majeure partie du terrain afin d'y édifier, en collaboration d'ailleurs avec un de ses familiers, le marquis de Lassay, le premier palais Bourbon dont la construction fut confiée à l'architecte italien Giardini. L'architecte n'eut point de chance et mourut la même année, et ce furent successivement Caïto, Jacques Gabriel et Jean Aubert qui construisirent l'édifice achevé en 1728.
1728, mais non loin de là, et parce que la duchesse de Bourbon, cette chatte qui tout en se jouant faisait sentir ses griffes, n'était pas insensible au noble charme du marquis de Lassay, ce dernier, par concession amoureuse, eut loisir de bâtir un ravissant hôtel, l'ancêtre de l'actuel hôtel de la présidence de l'Assemblée nationale.
La mort n'épargnant point davantage les nobles que les humbles, la duchesse de Bourbon et le marquis de Lassay trépassèrent entre-temps. Le roi Louis XV acheta ces immeubles, puis les rétrocéda au prince de Condé, Louis-Joseph de Bourbon, pour la somme de 3250 livres, ce qui en 1760 constituait un joli pécule. Sous la direction du prince de Condé, le palais devait connaître une nouvelle fortune et subir d'importantes transformations.
En exécution du décret du 9 novembre, les biens des émigrés deviennent propriété nationale. En 1792, une partie des locaux fut utilisée comme prison pour les Suisses.
1795. Le 18 septembre, le décret de la Convention affecte ces locaux au Conseil des 500 pour y tenir ses séances. Comme le rappelle Jean Marchand, les architectes Gisors et Lecomte eurent mission de construire une salle des séances en hémicycle sur l'emplacement des salons de la duchesse de Bourbon et d'aménager les deux grandes pièces latérales. Cette salle fut inaugurée le 21 janvier 1798. C'est là que les représentants du peuple prêtèrent serment de fidélité à la République. En ce soir mémorable, les Parisiens purent contempler un palais Bourbon tout illuminé et orné de festons et de guirlandes.
Brumaire. Cette date ne vous rappelle-t-elle rien? Mais à propos, savez-vous quelle est cette date? C'était le 9 novembre 1799. Le général Bonaparte transféra alors à Saint-Cloud le Conseil des 500 qui devait devenir l'Assemblée des 300 muets. Mais le séjour clodoaldien fut bref et l'Assemblée se réinstalla au Palais Bourbon où, dans la salle des séances, Bonaparte, en toute modestie, fit placer une statue représentant le premier consul offrant le code civil aux Français. L'histoire ne manquant ni d'humour ni de mesquinerie, il convient d'ajouter que quelques années plus tard, exactement le 4 décembre 1815, le roi Louis XVIII devait faire un cadeau impérial, ce qui est le comble pour un roi, à Sa Majesté le roi de Prusse. Ce cadeau, c'était tout simplement la statue de l'empereur transférée à Potsdam dans la galerie des Sans-Soucis et dont on est sans nouvelles depuis.
Pour la modique somme de 5 250 000 francs, la Chambre des députés devint propriétaire du Palais Bourbon. L'architecte Jules de Joly soumit de nouveaux plans pour l'embellissement des immeubles qui, en 1806 déjà, avaient été modifiés par M. Poyet, qui avait notamment fait construire une façade ornée de bas-reliefs dans un style similaire à celui de la Madeleine. De grands travaux furent alors entrepris qui furent retardés par la Révolution de 1830. La salle des séances fut achevée en 1832, la bibliothèque en 1834. Quant à la décoration, elle a été et elle est toujours l'œuvre de Delacroix, à qui commande fut passée en 1833. On peut encore admirer aujourd'hui les mers et les fleuves, cariatides colossales, peintes en camaïeu. Delacroix avait en outre choisi de grands sujets, la guerre et la justice, l'industrie et l'agriculture, pour décorer le plafond. Il ne fallut pas plus de 3 ans à Delacroix pour réaliser son œuvre, qui lui rapporta alors 35 000 francs. Il fut encore fait appel à Delacroix d'ailleurs pour peindre la bibliothèque entre 1838 et 1847.
Le 15 mai, la salle des séances fut envahie par le peuple. À ce moment, l'Assemblée nationale, ne groupant pas moins de 900 représentants, ne put évidemment trouver place dans la salle. On édifia donc une salle baptisée « salle de carton », dont la brève histoire fut agitée. Avant même son achèvement, les couvreurs se mirent en grève et il fallut toute l'autorité de Louis Blanc pour permettre aux élus de siéger. S'adressant aux grévistes, il leur demanda de ne pas ridiculiser l'Assemblée en l'obligeant à tenir ses séances à la Belle Étoile. Le bon sens étant, comme chacun sait, la chose du monde la mieux partagée, le président Louis Blanc obtint satisfaction. La salle de carton eut une existence éphémère, puisque 3 semaines après le coup d'État de Napoléon III, elle fut démolie en janvier 1852.
1870, un cyclone s'abat sur l'Europe. Au milieu du fracas de la Première Guerre mondiale, la Chambre abandonne le Palais Bourbon pour le Palais de Versailles, où furent transportés peut-être, en guise de symbole, le bureau du président, le fauteuil et la tribune. L'année suivante, la Commune s'empare du Palais Bourbon.
1880, un bruit court avec insistance. Va-t-on démolir le Palais Bourbon ? De nombreux rapports émanant d'architectes et de députés préparent cette éventualité. L'architecte Joly est spécialement chargé d'étudier un plan de reconstruction. Il fut à Vienne, à Budapest, à Berlin. Il revint consterné. L'infériorité du Palais Bourbon vis-à-vis des autres parlements lui paraît manifeste et il élabore un premier rapport. L'année suivante, il y en eut un autre de M. de Mailly, revendiquant pour les députés le droit de respirer et de se mouvoir. En effet, il avait calculé que chaque député ne disposait que de 80 cm carrés. Ce rapport n'eut cependant aucune suite, pas plus que ceux qui devaient être proposés par la suite.
Savez-vous quelle est la largeur du siège où nos élus prennent place ? 48 cm, moins que les enfants des écoles qui ont droit en principe à 75 cm. Mais bien que pour sortir de leur place, 200 députés soient obligés de déranger un voisin et que 56 soient contraints d'en déplacer deux, la gêne physique n'était pas le seul inconvénient invoqué. Il y a l'empoisonnement, disait le rapport, la lente intoxication. L'air tombe d'en haut et avant d'arriver à hauteur d'homme, il se mêle à de l'air déjà respiré. Et voici venir les tables de mortalité. Il meurt en moyenne par an 2 députés sur 100, et la mortalité s'élève à mesure que la session se prolonge. La première année qui a suivi le renouvellement de 1885, il n'en est mort que 9. L'année d'avant, fin de la législature, 14 avaient succombé.
1893. Le 9 décembre de cette année-là, le Palais Bourbon devait être le théâtre d'un événement tragique. Les députés étaient réunis en séance lorsque tout à coup, une bombe éclata dans une des tribunes. L'anarchiste Vaillant venait d'accomplir son geste criminel.
« Messieurs, dit alors simplement le président Charles Dupuis, la séance continue. » 1914. Le Palais Bourbon devait ensuite couler des jours paisibles, mis à part les inondations de 1910 qui, fort heureusement, ne lui firent subir aucune dépravation importante, jusqu'au jour sombre de 1914. Dès la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, l'Assemblée quitta Paris pour tenir ses assises à Bordeaux. La paix revenue, la convulsion sociale du 6 février 1934 amena les émeutiers à faire le siège du Palais Bourbon, qui, une fois de plus, sortit indemne de l'aventure.
« 1939. C'est le dernier épisode important de l'histoire du Palais Bourbon. Épisode tragique s'il en fut, et qui faillit lui être fatal. Durant la triste période de l'occupation, divers services allemands s'installèrent dans l'immeuble du Palais Bourbon. Les salons de la présidence servirent de cadre à un tribunal militaire et seule la bibliothèque resta fermée. Mais elle devait à son tour faire trembler ceux qui savaient les richesses incomparables qu'elle contenait et qui faisaient d'elle le joyau du Palais Bourbon. En effet, lorsque les troupes libératrices de la division Leclerc entrèrent dans Paris, les Allemands transformèrent le Palais Bourbon en forteresse et l'armée dut en faire le siège. Le 25 août 1944, dans des conditions demeurées mystérieuses, un incendie éclata au deuxième étage de la bibliothèque. Et comme les Allemands interdirent aux pompiers l'accès du palais, on put craindre le pire. Jusqu'à 18h50, moment de leur reddition, le feu ravagea, sans pouvoir être combattu, les dépôts situés dans l'aile orientale de l'édifice. Environ 25 000 volumes furent carbonisés et la grande salle de la bibliothèque n'échappa que de justesse à un véritable désastre. Avec l'hôtel du Quai d'Orsay, le Palais Bourbon a été l'un des monuments de Paris les plus éprouvés. Et la journée du 25 août s'inscrit tristement, mais glorieusement dans ses fastes.
Nous connaissons maintenant les grandes lignes du passé du Palais Bourbon. Malheureusement, notre émission est trop courte ce soir pour que nous puissions vous faire visiter l'actuel Palais Bourbon et l'hôtel de la présidence, mais nous espérons bien pouvoir vous initier à leur fonctionnement un jour prochain. Car l'organisation du Palais Bourbon est loin d'être simple. Savez-vous que ces installations correspondent à celles d'une ville de 15 000 habitants ? Son réseau téléphonique, par exemple, comprend 1200 lignes intérieures et extérieures. 15 000 communications y sont reçues chaque jour. Le bureau de poste expédie ou reçoit quotidiennement 30 000 lettres et plis divers. Et plus de 2000 personnes, des parlementaires, des journalistes, les secrétaires des groupes politiques, les attachés de cabinet, les anciens députés, d'autres encore, le fréquentent quotidiennement. On imagine donc la complexité de l'organisation intérieure du Palais Bourbon. Et c'est l'ensemble de tous ces services qui forment la questure. La questure placée tout naturellement sous l'autorité des questeurs. Questeurs dans le rôle et, vous le savez, prépondérant. Mais nous nous sommes rendus 128 rue de l'Université. C'est là, en effet, que se trouve l'entrée de l'hôtel de la présidence. Et c'est à l'hôtel de la présidence que nous avons été reçus par M. André Le Troquer, président de l'Assemblée nationale. Et, si vous le voulez bien, suivons-le dans son bureau.
Monsieur le Président, puis-je vous demander quelle a été votre impression le jour même où, pour la première fois, la confiance des parlementaires vous a porté à la présidence de l'Assemblée nationale ?
J'ai éprouvé une très grande fierté, mais je dois bien avouer que je m'y étais un peu préparé, parce que j'ai été pendant plusieurs années vice-président de l'Assemblée. Et Monsieur Herriot m'avait qualifié même assez fréquemment de premier vice-président, ce qui n'est pas prévu par le règlement, mais qui devenait un peu vrai, parce que le président Herriot avait quelques difficultés physiques malgré son grand courage et sa grande énergie, et que j'étais appelé à le remplacer fréquemment, tant à l'intérieur de l'Assemblée qu'à l'extérieur. Quand j'ai été élu président de l'Assemblée, je disais que j'ai éprouvé une grande fierté, mais j'avais déjà éprouvé une fierté en présidant le Congrès, qui devait élire le président de la République en décembre 1953. J'avais fait là, je ne dirais pas un essai, mais tout de même une prise de possession d'un très grand poste qui est encore beaucoup plus grand qu'on ne peut l'imaginer, parce qu'il y a le rôle public, il y a le rôle à la présidence effective de l'Assemblée, rôle délicat, difficile. Il faut arriver à gagner la confiance de ses collègues, parce que ça n'est pas seulement une application du règlement. Il faut que les collègues acceptent du président de l'Assemblée des interventions qui doivent toujours être à la fois courtoises, quelquefois fermes, quelquefois qui doivent prévoir un incident et essayer de l'empêcher. La confiance de l'Assemblée se gagne peu à peu, très difficilement, et on peut être fier quand on a le droit de supposer qu'on l'a gagné.
En tant que président de l'Assemblée nationale, vous êtes, Monsieur le Président, un des défenseurs les plus clairvoyants et les plus fermes des institutions républicaines. Puis-je vous demander comment vous concevez votre rôle ?
Ce rôle est précisément de donner une sorte d'esprit de corps à l'Assemblée. Étant républicain, démocrate, je pense qu'on n'a pas encore trouvé de système préférable au Parlement pour exprimer la volonté populaire. Les députés sont des mandataires du peuple. Ils doivent se souvenir toujours de cette qualité et du rôle que cela confère. Je crois qu'il n'y a pas d'institution républicaine facile en dehors d'un régime parlementaire qui représente le pays. Les députés sont des délégués. Ils doivent se souvenir, sans en être esclaves et asservis, ils doivent se souvenir qu'ils sont délégués, mandataires du peuple, et toujours agir dans l'intérêt général, dans l'intérêt du peuple. Par conséquent, défendre le régime parlementaire et, je crois, défendre le régime démocratique.
Merci, Monsieur le Président. Je me suis adressé jusqu'à maintenant au Président. Je vais me permettre de m'adresser à l'homme. Et lorsque le soir, il vous arrive d'être seul et de travailler à l'hôtel de la présidence, est-ce que les fantômes du passé viennent rôder autour de vous et lesquels ?
Je n'ai encore jamais senti la présence de fantômes. D'ailleurs, je suis aussi peu superstitieux qu'il est possible. Dans cette très grande maison, je sens la présence d'anciens. Je vis avec eux dans les souvenirs. Mais il y en a un qui est toujours présent pour moi. C'est le président Édouard Herriot, pour lequel j'ai une déférence, une estime, une affection sans limite. Lui est présent, mais ça n'est pas un fantôme. C'est un esprit cultivé, c'est un homme qui a donné du lustre au régime parlementaire. Et quand j'ai besoin de m'inspirer d'un souvenir ou d'un exemple, je pense la plupart du temps à Édouard Herriot, mais pas sous la forme d'un fantôme, comme quelqu'un de très vivant.
Une dernière question, Monsieur le Président. Le Palais Bourbon possède une admirable bibliothèque. Serait-il indiscret de vous demander quels sont les ouvrages ou les manuscrits qui ont votre préférence ?
Ah, je dois faire une confession. La vie parlementaire est chargée. Elle l'est pour les collègues, elle est aussi pour le Président. Et il a un regret très vif. C'est que, étant accaparé par la lecture de documents quotidiens, il n'a pas aussi souvent qu'il le voudrait la possibilité de se référer aux documents qui sont à la bibliothèque de l'Assemblée. Et pourtant, elle est extrêmement riche, très riche. 4000 volumes, des milliers de manuscrits, et j'ai eu l'occasion de provoquer une réplique spirituelle et pleine d'humour d'un grand bonhomme, comme je dis, Winston Churchill, qui a été un exemple pour l'humanité, qui a sans doute contribué beaucoup à sauver la civilisation. Je le conduisais dans une visite au Palais Bourbon vers la bibliothèque, et après lui avoir montré le tableau des bourgeois de Calais dans la salle des conférences, je lui dis, maintenant je vous conduis à la bibliothèque où il y a beaucoup de livres, des quantités, des milliers, et il y a des manuscrits, dont un au moins est original. Il y a deux exemplaires dans le monde, il y en a un qui est au Vatican, et l'autre qui est à notre bibliothèque. C'est le procès verbal relatant la condamnation de Jeanne d'Arc. Et j'ai dit, c'est un exemplaire unique et d'une valeur inestimable, puisqu'il est signé par l'évêque Cochon. Et M. Churchill m'a répondu, « Oh, Monsieur le Troquer, je dois vous le dire, je n'ai aucune responsabilité dans l'affaire de Jeanne d'Arc. »
Le président Le Troquer a tenu à rendre hommage au président d'honneur, Édouard Herriot. Nous eussions voulu avoir ce soir à notre micro le président Herriot. Malheureusement, l'état de santé actuel du président Herriot ne nous le permet pas. Mais, pour qu'il ne soit pas absent de cette histoire du Palais Bourbon, dont il est incontestablement une des plus remarquables personnalités, notre ami Georges Drouet, qui lui a récemment consacré une émission, a bien voulu nous livrer quelques-unes de ses pensées. Georges Drouet, très récemment, vous vous êtes rendu à Lyon et vous avez rencontré le président Herriot.
En effet, et je crois que j'ai eu là l'un des plaisirs les plus grands de ma vie de journaliste. J'ai peut-être eu là l'explication de ce qu'a été Édouard Herriot, homme politique, car je l'ai interrogé non pas sur sa vie d'homme politique, mais sur sa vie d'écrivain. Et nous avons essayé, lui et moi, de déterminer quels étaient les éléments fondamentaux de sa nature. Et je crois que j'en ai trouvé quatre. Le premier, c'est la liberté, le respect de la liberté sous toutes ses formes. Le second, c'est une totale indépendance d'esprit. Le troisième, c'est la vertu de tolérance. Le quatrième, et ce n'est peut-être pas le moins important, et c'est peut-être celui qui explique le mieux le succès d'Édouard Herriot dans la vie politique, c'est la curiosité, une curiosité sans cesse en éveil, toujours renouvelée. Une curiosité qui attire toutes les formes de l'art, toutes les manifestations de l'esprit, de l'architecture à la littérature, à la poésie, à la musique. Et j'ai ajouté pour ma part, et je l'ajouterai encore ce soir, et ceci est beaucoup plus une affaire d'homme qu'une affaire de littérature, la bonté, et le président Herriot m'a donné lui-même une définition de la bonté que voici.
La bonté, c'est la forme pratique de l'intelligence. L'intelligence conçoit et puis elle l'applique aussi. Eh bien, La bonté, c'est la traduction de nos sentiments, de nos idées, appliquées à nos, aux hommes, appliquées à nos frères, les hommes.
Mais il est un autre élément dont on ne peut dissocier la vie du président Édouard Herriot, c'est l'action. Il a écrit dans Esquisse, à propos de la philosophie, qu'elle était surtout l'art d'ignorer, qu'elle tenait à jour la carte où s'inscrivaient nos incertitudes et nos ignorances, et qu'assurément l'intelligence d'un homme se mesurait à ce qu'il savait ne pas comprendre, et qu'ainsi on était amené à vérifier les limites de l'action. Elle était, a-t-il proclamé, à propos de l'action, une affirmation pour celui qui pense. Elle est aussi, et cela est très important, elle est aussi la négation de tous les possibles moins-uns, et j'ai demandé au président Édouard Herriot de préciser sa pensée pour ce qui est de l'action.
Je dis que l'action est une est la négation de tous les possibles moins-uns. Par conséquent, comme je suis obligé d'agir, je suis obligé dans la vie pratique, dans la vie que je mène ici, dans la vie administrative, je passe mon temps à choisir des solutions. Eh bien, ça élimine toute une partie de l'action qui serait celle de l'intelligence, si l'intelligence était plus libre. Voilà ce que je pense.
Dans la série des émissions « Le monde comme il va », nous vous avons présenté « Petite histoire du Palais Bourbon », émission de Jacques Capdeville. Au cours de cette émission, présentée par Simone Angèle, Claude Gaudelette et l'auteur, avec le concours de Georges Drouet, vous avez pu entendre une interview exclusive de M. André Le Trocquer, président de l'Assemblée nationale, et la voix du président Édouard Herriot. C'était une réalisation Abder Isker.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne le 16 février 1957. Vous pouvez la réécouter en ligne sur le site de France Culture, à la page des nuits et sur l'application Radio France.